Mesdames, mesdemoiselles, et pas messieurs. Donc, je suis très heureux de venir vous parler ici à Flavigny. J'ai quitté ce matin Saint-Nicolas, Paris, et donc je suis en vacances auprès de vous pour vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je précise, je suis donc l'abbé Touvenot, je reçois au fond de ce couloir, au parloir. Et donc je suis l'un des quatre prêtres, l'un des trois mousquetaires, puisque vous savez que les mousquetaires étaient quatre, les trois mousquetaires étaient quatre, et donc nous sommes quatre pour s'occuper de vous. On a dû vous parler tout à l'heure, dans l'après-midi, donc du péché. Vous avez contemplé, médité sur la réalité, réalité que nous connaissons combien, du péché qui est la cause du mal dans le monde. Par la désobéissance du premier homme, le péché est entré dans le monde, c'est de foi, et avec lui la mort, la souffrance et tous les maux que nous pouvons connaître, imaginer. Et ce qui nous touche le plus, c'est souvent, bien sûr, la maladie, le deuil, la souffrance, et puis souffrance morale comme physique. Mais Dieu, face au mal, ne s'avoue pas vaincu. Et il le dit également dans l'Écriture sainte, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais au contraire qu'il se convertisse et qu'il vive. Dieu veut, Dieu qui est le bien parfait, Dieu ne peut pas ne pas vouloir ce qu'il est lui-même, le bien. Et le bien participer, le bien communiquer à ses créatures. Il n'est donc pas cause du mal. Dieu n'est pas la cause du mal, du moins pas du mal de faute. La faute, c'est toujours nous, les créatures, qui sortons de l'ordre voulu par Dieu et qui ne correspondons pas à ce pourquoi nous avons été créés, pour louer, honorer, servir Dieu, comme nous disons dans les retraites de Saint Ignace. Dieu n'est pas la cause du mal de faute. Le mal de peine, Dieu peut en être la cause. Comme un châtiment, l'aveuglement, par exemple. Il est dit dans l'Écriture sainte que le cœur de Pharaon, n'est-ce pas, s'endurcit. Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour retenir le peuple hébreu dans l'esclavage en Égypte. Mal de peine, mais pas mal de faute. Mal de peine qui vient remettre de l'ordre, qui vient exercer la justice. Et qui est mérité, qui est dû. Pourquoi je vous dis tout cela? Vous allez comprendre. Dieu, qui est souverainement bon, qui veut le bien de sa créature, qu'il vive, qu'il se convertisse, qu'il revienne à de meilleurs sentiments, n'est pas la cause du mal de faute. Il peut être cause du mal de peine. Mais quel est ce mal? Ce sera toujours, par rapport à Dieu qui est le bien, ce sera toujours une absence, une privation, une défaillance, une misère de la créature à qui il manque quelque chose. Et c'est cela le mal. Le mal pour un aveugle, c'est la privation de vue. Mais la cécité, ça n'existe pas. En dehors d'un sujet bon, une créature, qui est atteinte par un mal, qui est la privation de la vue. C'est très important d'avoir ces choses en tête. J'espère que c'est simple. Je précise que, évidemment, m'occupant d'étudiants durant l'année, à l'Institut Saint-Pédis, j'ai peut-être le défaut de mes qualités. Alors, je vais essayer de reprendre les choses très simplement. Ce que je veux dire, c'est que par le péché, notre nature humaine n'est pas pure, n'est pas intègre, n'est pas innocente, n'est plus innocente. Voici un texte de Pascal dans ses Pensées, numéro 430, pour ceux qui auraient l'édition Brunswick. Bon, qu'importe. Vous n'êtes pas dans l'état de votre création, nous dit Pascal. Vous n'êtes pas dans l'état de votre création, vous n'êtes plus maintenant en l'état où je vous ai formé. C'est Dieu qui parle. J'ai créé l'homme saint, innocent, parfait, Je l'ai rempli de lumière et d'intelligence. Je lui ai communiqué ma gloire et mes merveilles. L'œil de l'homme voyait alors la majesté de Dieu. Cela s'entend. Il n'était pas alors dans les ténèbres qui l'aveuglent, ni dans la mortalité et dans les misères qui l'affligent. Mais il n'a pu soutenir tant de gloire sans tomber dans la présomption. Il s'agit d'Adam, du péché, du premier péché de nos parents. Il a voulu se rendre centre de lui-même et indépendant de mon secours. Il s'est soustrait à ma domination et s'égalant à moi par le désir de trouver sa félicité en lui-même, je l'ai abandonné à lui. Et révoltant les créatures qui lui étaient soumises, je les lui ai rendues ennemies, en sorte qu'aujourd'hui l'homme est devenu semblable aux bêtes et dans un tel éloignement de moi qu'à peine lui reste-t-il une lumière confuse de son auteur. Tant toutes ses connaissances ont été éteintes ou troublées. Les sens, indépendants de la raison, l'ont emporté à la recherche des plaisirs. Toutes les créatures ou l'affligent ou le tentent et dominent sur lui, ou en le soumettant par leur force, ou en le charmant par leur douceur, ce qui est une domination plus terrible et plus impérieuse. Voilà l'état où les hommes sont aujourd'hui. Citation un peu longue, mais qui est comme un résumé de l'état de l'homme laissé à lui-même, centre de lui-même, devenu indépendant par rapport à Dieu, qui a vaguement encore une notion de l'auteur de sa nature, de Dieu, et qui finalement a en lui-même, par les blessures du péché originel en particulier, qui a en lui-même ce désordre que nous connaissons tous, sinon nous ne serions pas de la même nature humaine. Et ce désordre, c'est notamment les sens qui n'obéissent plus à la raison, et la raison qui est avilie, asservie à la recherche des plaisirs, pour reprendre les mots de Pascal. Dans cet état-là, qui n'est pas l'état de notre création, mais l'état de notre déchéance, notre chute, l'homme, livré à lui-même, eh bien, a des droits. Oui, il y a des droits de l'homme. C'est la mort. La mort, les souffrances, la peine et l'enfer. Je crois qu'il faut être lucide. Les droits de l'homme centre de lui-même, c'est la mort, la privation du bien suprême qui est Dieu, et c'est cela l'enfer, justement, cette séparation, cette peine du dent, la damnation, qui est conséquence de la privation de la justice originelle. L'aveugle est privé de la lumière, c'est le mal qui l'atteint. L'homme est privé de la justice originelle, il est séparé de Dieu. La peine du dent, c'est une conséquence, mal de peine, qui suit le mal de faute, la désobéissance, le péché, péché originel et péché ensuite personnel de toute créature, ici-bas. Alors après cette entrée en matière difficile, mais ô combien réelle, il nous faut méditer, contempler comment Dieu ne va pas s'avouer vaincu, bien sûr, par cet état de l'homme déchu, mais au contraire va venir à son secours pour le sauver. Dieu avait promis à nos premiers parents déjà le secours. Et ce secours, d'ailleurs, il est dans la parole de Yahvé Dieu, non pas à Adam, non pas à Ève, mais au serpent. C'est donc le Genèse 3:15, pour ceux qui auraient une Bible avec elle, pour celles qui auraient une Bible avec elle. Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les animaux, dit Yahvé Dieu au serpent. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Autre traduction, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Premier secours de Dieu, immédiatement après le péché originel, avant même de punir Adam et Ève. Vous voyez, la pédagogie de Dieu, c'est que avant de châtier, il donne le remède, l'espoir, qui est ici dans la postérité de la femme. Et dans cette descendance, bien sûr, tous les hommes qui ont suivi Adam, Abel, Caïn, Seth, etc. Après, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Eh bien, tous les hommes ont attendu que ce secours de Dieu, qui s'est précisé à travers les âges, alors je ne vais pas vous faire l'économie du salut, des prophéties, mais sachez peut-être relire dans la Bible toutes ces promesses faites à nos pères, Dieu qui donc promet aux hommes en général donc c'est un sauveur, quelqu'un qui va écraser le serpent, le pouvoir du démon, et puis ensuite c'est bien sûr le choix d'un homme, Abraham, dans Abraham un peuple, dans ce peuple une tribu, dans cette tribu une maison, la maison de David, et dans cette maison ensuite eh bien une descendance toute particulière, descendance d'une vierge. C'est, par exemple, le livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, vous connaissez bien cela, puisque c'est le texte que nous lisons pour les fêtes de la Vierge. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la Vierge a conçu et elle enfante un fils. Et elle lui donne le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, et etc. Et puis, quelques chapitres après, chapitre 11, un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Il mettra ses délices dans la crainte de Yahvé. Donc un enfant, ici, enfin c'est plutôt là, c'est pas l'enfant, et l'enfant c'est encore un peu après. C'est quelque part par là. Mais ce qui est certain, c'est que donc il y a ce fils né de la Vierge et sur qui résidera donc l'esprit de Yahvé, l'esprit, les sept dons du Saint-Esprit que vous avez reconnus. Et puis il y a encore un autre endroit. On parle plus précisément encore de l'enfant. Mais... J'ai un petit. Ça me reviendra. Donc promesse durant des siècles aux hommes, et spécialement donc à un peuple, le peuple d'Israël, à une tribu, Judas, à une maison, maison de David, d'un prince qui régnerait et qui rétablirait l'ordre de Dieu. Ce prince, c'est le Messie. Si nous voulons donc nous approcher de ce Messie, car le but de cette conférence est de vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien il faut continuer et comprendre quelle est la réponse de Dieu face au mal. Je reprends vraiment le cours de mon propos. La réponse de Dieu face au mal porte un nom. Et ce nom, c'est la miséricorde, la bonté, la bénignité de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu qui s'incarne, qui se fait homme pour vaincre le mal. Et c'est tout ce que nous avons en fait à contempler durant une retraite, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le modèle, l'archétype, si vous voulez, de toute sainteté, qui est Dieu fait homme, qui est cette réponse de Dieu face au mal et qui donne le pouvoir à ceux qui l'imitent, à ses disciples, de vaincre le mal, de vaincre la mort, de vaincre les souffrances par un mode très particulier qui est le rachat, la rédemption, pour être possédé un jour pleinement ce pour quoi l'homme a été créé, à savoir la possession parfaite de la béatitude éternelle. Alors voyons un peu cette réponse de Dieu face au mal. Je vous disais qu'elle portait un nom, c'est la miséricorde faite chair. Alors il y a une conférence sur la miséricorde, donc je ne vais pas m'y attarder. Simplement, faut dire que la miséricorde, c'est un mouvement attribué à Dieu, nous dit saint Thomas d'Aquin, non pas en tant que Dieu s'attristerait de la misère d'autrui, comme on s'attriste en par une sensibilité, par manière sensible. Dieu n'a pas de corps. Je parle de Dieu, pas Dieu incarné, mais Dieu, la divinité. Mais la miséricorde lui convient parfaitement parce que faire cesser une misère, chasser un manque, un défaut, une défaillance, un mal, cela revient éminemment à celui qui est exempt de toute déficience, de tout défaut, de toute misère. Et celui qui est évidemment éminemment exempt de tout mal, c'est celui qui est tout bien. C'est le bien parfait, le bien suprême. Les déficiences, explique saint Thomas d'Aquin, sont supprimées par l'octroi de quelque bonté. Or, Dieu est la source première de toute bonté. Donc il revient parfaitement à Dieu, en tant qu'il est souverainement bon, de chasser, de combler un vide, un manque, un défaut. Et voilà pourquoi que Dieu s'incarne, que Dieu se fasse l'un des nôtres pour sauver les hommes, cela est d'abord une pure bonté de Dieu face à un mal, donc ça s'appelle une miséricorde. Miséricorde, vous savez, c'est le cœur qui est misérable, qui s'afflige, si vous voulez, qui est pauvre, à cause non pas de ce qui lui manque, mais de ce qui manque aux autres. La miséricorde, c'est toujours par rapport à un prochain, pas par rapport à soi-même. Donc, les perfections octroyées par Dieu aux choses, il supprime toute déficience, et cette action de Dieu, qui est l'expansion, la diffusion de sa bonté pour combler un manque, combler une déficience, c'est cela qui relève de la miséricorde. Donc, vraiment, que Dieu vienne au secours des hommes à travers ces quelques promesses que j'ai rapidement esquissées, rappelées, et qu'il vienne ensuite s'incarner, nous allons y arriver tout de suite, eh bien cela est certainement d'abord un effet de la miséricorde. Voilà pourquoi la charité, l'amour est d'abord et toujours de la part de Dieu un amour miséricordieux. Un amour gratuit, c'est sûr, mais miséricordieux parce qu'il vient combler un manque, un mal. C'est ce que dit le Christ, je suis venu pour, non pas des bien portants, mais pour des malades, pour ceux qui ont besoin du médecin, du médecin des âmes. Donc, premier effet, première réponse de Dieu face au mal, c'est un mouvement de miséricorde. Ce mouvement de miséricorde, vous le connaissez, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réponse de Dieu face au mal. Il va donner la bonté qui chasse toute ténèbre, qui chasse toute déficience. Et il ne peut pas donner mieux que lui-même. Et c'est cela, Jésus-Christ, c'est Dieu incarné, donc Dieu fait l'un des nôtres, la bonté donnée aux hommes pour guérir leurs maux, pour répondre au péché, au désordre fait par le péché. Miséricorde faite chair. Alors, voyons, vous avez, avant d'aborder cette incarnation directement, vous avez une parabole bien connue, qui est la parabole du bon samaritain, que vous trouvez dans l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 11, ou plutôt 10, pardon, chapitre 10, verset 30 et suivant. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent et l'ayant chargé de coups, se retirèrent, le laissant à demi-mort. Ce passage a été commenté par tous les pères de l'Église qui voient dans cet homme qui descend de Jérusalem, qui est la cité de la paix, qui figure donc le paradis, et qui descend donc, c'est pas un progrès généralement, il descend où? À Jéricho, qui signifie d'ailleurs la cité de la lune, donc vous voyez, on passe dans les ténèbres, dans le royaume de la nuit. Et cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, eh bien, c'est Adam, c'est le premier homme, c'est l'homme qui déchoit de sa dignité native créée pour, eh bien, être chassé, quitter le paradis, quitter Jérusalem. Il tomba entre les mains des brigands, ce sont les démons qui ont fait chuter les hommes et puis tous les méchants répandus dans l'univers, les esprits méchants comme les êtres méchants qui poussent à finalement se dépouiller mais dépouillé dans le mauvais sens du terme, dépouillé des biens reçus de Dieu. Voyez. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent et, l'ayant chargé de coups, se retirèrent, le laissant à demi-mort. Ici, il s'agit, l'homme est dépouillé des biens reçus, des biens de l'immortalité, enfin tout ce qu'il avait reçu par Dieu, ne souffrant pas, étant immortel, voyant Dieu, créé en état de grâce, un état extrêmement élevé, et il perd tous ses biens, il est dépouillé, et il est laissé à demi-mort. En latin, c'est, je crois, semi-vivus. Donc, ce qui est traduit en français par demi-mort. Peut-être que les Français sont plus pessimistes que les Latins, qui voyaient plutôt ce qui restait que ce qui manquait. Enfin, voilà, l'état de l'homme, il est là, voyez. L'homme, il est laissé dans le fossé, et laissé à lui-même, cet homme va mourir, et il est incapable de se soigner, il est incapable de retourner à Jérusalem. Ça c'est l'explication tout à fait traditionnelle de ce passage. Et bien sûr, alors il y a ceux qui passent, qui ne peuvent rien pour cet homme. Et puis il y a le bon Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, et le voyant fut touché de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, après y avoir versé de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le mena dans une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 deniers, il les donna à l'hôte et lui dit « Aie soin de cet homme. » Bon, etc. Ici, le bon samaritain, il le dit expressément, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le bon samaritain. Dieu, touché de compassion, s'arrête, enfin, est en voyage, donc il pèlerine parmi nous, il se fait l'un des nôtres. Il va soigner, s'arrêter cet homme que les autres hommes qui passaient les autres hommes ne pouvaient rien pour lui. Le bon samaritain, lui, s'arrête, parce que lui peut le sauver. Et il le soigne. Les pères de l'Église ont vu, bien sûr, dans ses soins apporter les sacrements de l'Église, bien, bien sensibles, l'huile, le vin, l'Eucharistie, l'huile, le baume qui soigne les maladies. On peut y voir la confession, on peut y voir, bien sûr, l'extrême onction. Et puis ensuite, qui le mène où? Dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'Église. L'Église est ici-bas, l'hôtellerie où on soigne les hommes laissés à demi-mort dans les fossés pour les ramener à Jérusalem. Et puis les 2 deniers, c'est, je crois, le symbole des 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Là est le résumé de toute la loi et les prophètes. Donc vous voyez, vous avez bien ici l'illustration, que vous pourrez méditer tout à l'heure peut-être, de ce que fait Dieu pour soigner la créature, laisser à demi-morte, dépouiller des biens reçus et donc au pouvoir des brigands. Venons-en maintenant directement, après cette parabole du bon samaritain, au mystère de l'incarnation qui est, nous dit saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, le mystère, un des mystères qui reste le plus, qui ne cesse de confondre la raison humaine. Si vous discutez d'ailleurs avec des musulmans, ça peut arriver aujourd'hui en France, il n'y a plus besoin d'aller très loin pour en discuter, eh bien, c'est quelque chose qui les choque beaucoup de s'imaginer que un homme, Jésus-Christ, qu'on puisse dire Jésus est Dieu. Ça, c'est pas possible. Ça passe pas du tout. Pour eux, c'est un blasphème. Que Dieu puisse être dit, que l'homme puisse être dit Dieu. Qu'un homme puisse être dit être Dieu. Bon. Et alors là, il faut leur répondre, que j'ai l'expérience maintenant, il faut leur répondre, et pourquoi pas? Dieu est tout-puissant. Pourquoi Dieu pourrait-il pas se faire homme? Bon. Ah, mais Mahomet... Bon. Alors, revenons à saint Thomas d'Aquin, que je vais suivre au hasard, dans le mystère de l'incarnation. Saint Thomas d'Aquin se pose la question... Au début de la tertia pars de la somme théologique, vous savez que dans la tertia pars, il y a justement 3 parties. La première, la deuxième et la troisième. La première étant Dieu. La deuxième étant les vertus, le moyen l'homme, disons. Et puis, troisième partie, c'est le retour de l'homme à Dieu. Donc, c'est justement le bon samaritain qui vient repêcher notre, l'homme laissé à demi-mort ou à demi-vivant, comme vous voulez, et qui va donc le restaurer dans l'Église. L'incarnation était-elle nécessaire à la restauration du genre humain, se pose saint Thomas d'Aquin comme question. Est-ce que Jésus-Christ, qui est cette réponse, encore une fois, du mal, enfin, de Dieu face au mal, est-ce que c'était vraiment nécessaire de passer par là? Et nous connaissons la suite, nous savons que quand il dit cela, est-ce qu'il fallait donc que Dieu s'incarnât, qu'il comme petit bébé, mais aussi qu'il aille jusqu'à la croix. Alors, je prendrai qu'une objection, ou deux objections. Le temps passe. Au moins une. La deuxième. Pour restaurer la nature humaine, ruinée par le péché, rien ne paraissait requis, sinon que l'homme satisfasse pour le péché. L'homme a péché, il est tombé, l'homme n'a qu'à bien agir, et il sera sauvé. C'est l'objection. Or, l'homme le pouvait, semble-t-il, car Dieu ne peut pas lui demander plus qu'il ne peut faire. Et puisqu'il est plus enclin à faire miséricorde qu'à punir, Dieu est bon. De même qu'il impute à l'homme l'acte de son péché pour le punir, de même doit-il imputer l'acte contraire pour son mérite. Donc, il n'était pas nécessaire à la restauration de la nature humaine que le Verbe de Dieu s'incarna. Vous voyez, un acte humain bon pouvait compenser l'acte humain mauvais qui est commis par n'importe quel péché. C'est une objection que nous retrouverons lorsque nous traiterons de la grâce. Et c'est une objection très, très moderne, je crois. L'autre objection, j'en prends quand même une deuxième pour le plaisir, que saint Thomas d'Aquin se fait pour dire qu'après tout, l'incarnation n'était peut-être pas vraiment nécessaire, c'est de dire, ça c'est peut-être l'objection d'ailleurs des musulmans, le respect envers Dieu est une des conditions principales pour que l'homme obtienne le salut. L'homme doit respecter, adorer l'infinie majesté de Dieu. Mais ce respect des hommes envers Dieu sera d'autant plus grand qu'ils le considéreront comme élevé au-dessus de tous et éloigné de la connaissance humaine. Très loin, très très loin dans les nuées et pas l'un des nôtres. C'est l'objection tout à fait moderne. D'où la parole du psaume, le Seigneur est élevé au-dessus de tous les peuples, sa gloire au-dessus de tous les cieux, qui est semblable au Seigneur notre Dieu. Donc, il est tellement élevé, tellement majestueux, que ce serait incongru, pour résumer l'objection, contraire à l'infini respect dû à la majesté divine, que Dieu, donc, s'incarne et se fasse l'un des nôtres. Vous voyez, deux objections profondes, qui ne sont pas idiotes, qui ne sont pas à mépriser, et qui montrent bien la difficulté de comprendre comment Dieu, par sa bonté qui est miséricordieuse, comment Dieu, en fait, ne va pas du tout, on va répondre à ces objections, je vous rassure, eh bien, Dieu ne va pas du tout contre ni la justice, ni la bonté, ni l'ordre convenable des choses. Saint Thomas d'Aquin, donc, a posé deux objections pour un peu ébranler nos certitudes, et il s'empresse d'y répondre, en citant d'abord ce que dit saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une phrase magnifique de saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui croiront en lui. Donc, l'incarnation était nécessaire aux hommes. Et après avoir rappelé cette phrase de l'évangile, c'est saint Jean chapitre 3 verset 6, saint Thomas d'Aquin explique en quoi l'incarnation, comment Jésus-Christ est véritablement le remède qu'il nous fallait, le remède parfait correspondant bien à notre état de nature humaine déchue. Et pour répondre, il distingue ce qu'il faut entendre par nécessaire. Une chose est nécessaire, oui, mais de deux manières différentes. Première manière, une chose peut être nécessaire, c'est on ne peut pas envisager quelque chose, l'existence d'une chose, par exemple, sans si la condition n'est pas accomplie. je lis Saint Thomas d'Aquin, ce sera plus français d'ailleurs. Quelque chose est dit nécessaire à une fin de deux façons, de telle façon que sans cela, quelque chose ne puisse pas exister. Sans cela, quelque chose ne puisse pas exister. C'est ainsi que la nourriture est nécessaire à la conservation de la vie humaine. Il faut manger pour vivre. C'est nécessaire à la conservation de la vie humaine. Faites l'expérience, arrêtez de manger et vous n'arriverez pas à vous conserver en vie très longtemps. Ou bien, deuxième manière d'entendre la nécessité, parce que cela permet de parvenir à la fin de façon meilleure et plus adaptée. Par exemple, un cheval est nécessaire pour voyager. Bon, aujourd'hui, c'est un cheval vapeur, mais c'est exactement le même principe. Donc ici, Saint Thomas d'Aquin nous dit, ici, c'est pas nécessaire au sens absolu, mais au sens relatif. Voyager, on peut voyager à pied, mais avec un cheval, c'est plus rapide, c'est plus commode, c'est mieux. Et pour des longues distances, c'est absolument même nécessaire. De la première façon, l'incarnation n'était pas nécessaire à la restauration de notre nature. Dieu, par sa vertu toute puissante, aurait pu restaurer notre nature de bien d'autres manières. L'incarnation reste gratuite. Dieu ne nous devait pas l'incarnation, voyez, de manière absolue. Ça reste un don gratuit de la bonté divine qui répond encore une fois à notre misère. De la seconde façon, par contre, il était nécessaire que Dieu s'incarnât pour restaurer notre nature. C'est ce que dit saint Augustin. Dieu, à la puissance de qui tout est également soumis, avait la possibilité d'employer un autre moyen, mais qu'il n'y en a eu aucun plus adapté à notre misère et à notre guérison, cela se voit en Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus-Christ, Dieu aurait pu faire autrement, oui. Mais Jésus-Christ est le moyen le plus adapté, le plus parfait, le plus adapté à notre nature et, saint Augustin le dit bien, adapté à notre misère et à notre guérison. Autrement dit, c'est le rapport est toujours étroit entre l'incarnation et le péché, entre le bien comme réponse au mal, pour triompher du mal. Alors, voyons un peu les raisons. Alors, ça c'est le principe, ça reste peut-être trop abstrait pour vous, on va l'appliquer maintenant, toujours en suivant saint Thomas d'Aquin, pour voir combien cette incarnation correspond parfaitement à notre nature humaine déchue et comment Dieu a réussi un bijou de miracle, si vous voulez, en s'incarnant, en se faisant l'un des nôtres. Et saint Thomas d'Aquin, qui est très logique, voit la chose de deux manières. Souvenez, Jérusalem, Jéricho. L'homme déchu, dépouillé, tombe à Jéricho et est laissé à demi-mort. Donc il s'est éloigné du bien, et il s'est tourné vers le mal. C'est le mouvement du péché. Le péché se définit comme l'aversion de Dieu, donc on se détourne de Dieu pour se tourner vers des créatures, et de manière désordonnée. Eh bien, saint Thomas d'Aquin reprend exactement le même mouvement. Même schéma. D'abord, en envisageant l'incarnation au point de vue de notre progrès dans le bien, donc par rapport au bien, et ensuite par rapport au mal. Par rapport au bien, saint Thomas d'Aquin donne 5 raisons pour lesquelles l'incarnation est parfaitement adaptée à notre misère et à notre guérison. Jésus-Christ est vraiment la réponse, le remède, la bonté miséricordieuse qu'il nous fallait. Première raison, c'est pour assurer notre foi, conforter notre foi en Jésus-Christ. Notre foi devient plus assurée du fait que l'on croit Dieu qui nous parle en personne. En personne. Il s'est fait un véritable homme comme nous. C'est ce que dit saint Augustin, pour que l'homme marche avec plus de confiance vers la vérité, la vérité en personne, le Fils de Dieu, en assumant l'humanité, a constitué et fondé la foi. Vous voyez ? C'est Dieu en personne qui parle. Personne humaine. Vrai Dieu, vrai homme. C'est très important. C'est pas une vérité philosophique. C'est une vérité incarnée. Qui a prêché. Qui a enseigné. Mieux qu'aucun maître ne saurait enseigner. Deuxièmement, après la foi, l'espérance. L'espérance est soulevée au maximum. Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin cite beaucoup Saint Augustin. Saint Augustin le dit, rien n'était aussi nécessaire pour relever notre espérance que de nous montrer combien Dieu nous aimait. Quel signe plus évident pouvons-nous en avoir que l'union du Fils de Dieu à notre nature? Oui, signe que nous espérions dans l'amour de Dieu pour nous. Si parfois nous devons douter de notre amour pour lui, au moins que nous ne doutions jamais de son amour pour nous. C'est une belle raison, un bel argument. Troisième argument, notre charité est réveillée au maximum par ce mystère. Et saint Augustin dit d'ailleurs, quel plus grand motif y a-t-il de la venue du Seigneur que de nous montrer son amour pour nous? Et il ajoute, si nous avons tardé à l'aimer, maintenant au moins, ne tardons pas à lui rendre amour pour amour. En latin, c'est redamare, qui répond à amare. Aimer en retour. Par rapport à Dieu, nous sommes toujours des créatures, toujours, nous ne pourrons que rendre, autant qu'on peut, un peu de l'amour qu'il a d'abord eu pour nous. Oui. Dieu est premier. Il faut bien faire attention à toujours considérer, quand nous prions dans nos actions, dans nos vies, Dieu est premier. C'est pas, c'est pas le copain, vous savez, à égalité. On essaie toujours de rendre à Dieu quelque chose qu'il a donné en premier. Il y a la vie, il y a tous les biens naturels, mais il y a aussi son amour au maximum qui s'est montré par son Fils. Quatrième raison, l'incarnation nous donne un modèle de vie. Ça, c'est très fort aussi. Par l'exemple que Jésus-Christ a présenté. Selon saint Augustin, en effet, l'homme que l'on pouvait voir, il fallait pas le suivre. Les hommes étaient tous pécheurs. Qui suivre? Quel modèle? Quel exemple? Quel homme? Aucun. Voyez, le roi David, qui est une des figures du Messie, le roi David a péché, et gravement. Salomon aussi, tous les plus grands saints sont restent des hommes et restent faillibles et ont pu parfois dans leur vie, ont tous péché. Hein. Même si ce fut, je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'a certainement jamais péché gravement, mortellement, mais elle a péché vénialement. Par exemple, lorsque, petite enfant, on avait offert deux petites bagues à sa sœur Céline et à elle-même. Et les deux bagues, le paquet tombe, une bague tombe et se casse. Et la petite Thérèse dit, oh, c'est la bague de Céline qui s'est cassée. Oui. C'était un petit péché d'enfant, mais que c'était pas la sienne, c'était celle de Céline, comme par hasard. Oui. Elle s'en est voulu, elle leur raconte hein, combien c'était. Ça montrait bien notre attachement aux choses. Bon. Alors donc l'incarnation nous donne un modèle de vie par l'exemple que Jésus a présenté. L'homme que l'on pouvait voir, il ne fallait pas le suivre. Il fallait suivre Dieu, mais Dieu, on ne pouvait pas le voir. Donc celui qu'il fallait suivre, on ne voyait pas. Ceux qu'on voyait, il ne fallait pas les suivre. Alors, pour mettre tout le monde d'accord. Pour donner à l'homme un modèle visible, c'est donc pour donner à l'homme un modèle visible par l'homme et que l'homme pouvait suivre que Dieu s'est fait homme. Tout est résolu. Dieu fait homme, c'est un modèle que l'on peut suivre et qui est visible. Cinquième raison, dernière raison, l'incarnation est nécessaire à la pleine participation de la divinité qui est la béatitude véritable de l'homme et la fin de la vie humaine. Je répète, l'incarnation est nécessaire à la pleine participation de la divinité qui est la béatitude véritable de l'homme et la fin de la vie humaine. Et donc, nier cette fin, évidemment, c'est tout détruire. Mais nier la béatitude comme fin ultime de l'homme, c'est aujourd'hui très commun, très répandu, évidemment, c'est le meilleur moyen de ne pas comprendre la part que nous avons à prendre à la suite de la divinité. C'est cela qui nous a été conféré par l'humanité du Christ, car saint Augustin l'a prêché, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. On va bien comprendre. Le ciel était fermé, et Dieu s'incarne pour le rouvrir aux hommes. Pour que l'homme puisse participer et enfin atteindre à sa fin ultime, dont il était privé par le péché. Voilà donc les cinq raisons profondes, irréfutables, qui nous montrent combien cette réponse de Dieu face au mal est un bijou de miracle, d'équilibre, et correspond parfaitement à ce dont nous avons besoin pour sortir de notre boue, pour suivre visiblement un exemple qui est la vérité en personne, qui prêche la vérité, qui prêche la morale parfaite, par exemple, la vérité dogmatique aussi, doctrinale, pour que nous puissions le suivre et augmenter et vivre de foi, d'espérance et de charité à sa suite. Deuxième partie, après avoir envisagé la convenance de l'incarnation de Jésus-Christ par rapport au bien, il faut également voir comment l'incarnation est parfaitement utile et bien adaptée pour nous aider à nous éloigner du mal. Et saint Thomas d'Aquin, par souci d'équilibre, de symétrie, donne là encore cinq raisons pour montrer que l'incarnation est utile pour nous aider à fuir le mal. Première raison, par ce mystère, l'homme apprend à n'avoir ni préférence ni respect pour le démon qui est l'auteur du péché. Saint Augustin, il est cité quasiment à chaque fois, « Si la nature humaine a été unie à Dieu au point de devenir une seule personne, contemplez Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est une personne de nature. » Donc, si la nature humaine, c'est pas la nature angélique, nature humaine, a été unie à Dieu au point de devenir une seule personne, que ces esprits mauvais et orgueilleux n'osent plus se préférer à l'homme sous prétexte qu'ils n'ont pas de chair. Vous voyez, le démon pouvait dire, je suis quand même d'une nature supérieure aux hommes, mais par Jésus-Christ, nous sommes supérieurs à ces anges mauvais. Raison. Et ça, c'est pour nous aider à n'avoir ni préférence, ni respect pour le démon. Vous voyez ? Puisque Dieu est passé par-dessus lui, en se faisant homme. Deuxième raison, par ce mystère de l'incarnation, nous découvrons toute la dignité de la nature humaine. La voilà la dignité de la nature humaine. Et qu'il ne faut pas la souiller par le péché. Ce qui fait, voilà, c'est ça. Ne pas souiller notre nature par le péché. C'est la seule dignité de l'homme qui vaille. Ce qui fait dire à saint Augustin, Dieu nous a montré la place éminente occupée par la nature humaine dans la création par le fait qu'il est apparu aux hommes comme un homme véritable. Et saint Léon le Grand le dit, c'est très connu, chrétien, reconnaît ta dignité. Ça, c'est quelque chose que les modernistes ont beaucoup cité il y a quelques années. Reconnaît ta dignité, mais il faut pas oublier la suite. Et après avoir été uni à la nature divine, ne va pas par une conduite honteuse retourner à ton ancienne bassesse. Et la vie nouvelle a mené, suite à cette union, à ce mariage de Dieu et de la nature humaine, nous fait connaître notre véritable dignité, mais nous engage, nous donne des devoirs pour, évidemment, ne pas retourner à notre vomi, comme dit l'Écriture. Troisième raison, pour détruire la présomption de l'homme. La grâce de Dieu est mise en valeur pour nous sans aucun mérite de notre part. Ce n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc, on y est vraiment pour rien. C'est pas notre faute. C'est Dieu qui a pris l'initiative, par pure bonté, par pure miséricorde, on y est toujours, de s'incarner, sans part de nous-mêmes. Il y aurait une exception, il y a quand même eu une créature qui a eu une part imminente, c'est la Vierge Marie. Mais bon. Quatrième raison, l'orgueil de l'homme, qui est le plus grand obstacle à l'union avec Dieu, peut être réfuté et guéri par cette grande humilité de Dieu. C'est saint Paul qui nous dit que Dieu s'est humilié, s'est abaissé. L'incarnation, c'est d'abord un abaissement de Dieu, parce que se faire homme, c'est pas un progrès pour Dieu. C'est d'abord l'humilité de Dieu pour guérir l'orgueil de l'homme. Voyez, le Christ, c'est le nouvel Adam. Adam avait péché par orgueil, présomption. Le Christ va nous montrer par sa vie, dès la naissance, dès l'incarnation, mais jusqu'à sa fin, bien sûr, l'humilité. L'humilité extrême. L'humilité jusqu'à la croix. Cinquième et dernière raison, l'incarnation est utile pour délivrer l'homme de la servitude du péché. Et c'est bien cela qu'il nous fallait, un médecin. C'est ce que nous dit saint Augustin. Cela devait se faire de telle sorte que le diable fût vaincu par la justice de l'homme Jésus-Christ. Et cela s'est fait parce que le Christ a satisfait pour nous. Un simple homme, c'est très profond, c'est une très belle raison, un simple homme ne pouvait pas satisfaire pour tout le genre humain. Un homme peut se sacrifier lui-même, il peut s'immoler par le feu, par exemple, quoi. Si tant est que ça puisse plaire à Dieu, si c'était un moyen de sauver, il ne pourrait que satisfaire que pour lui-même. Imaginez un homme qui a beaucoup péché, alors il va s'immoler, par exemple, il veut réparer le mal qu'il a fait. Évidemment, c'est très mal, mais de manière abstraite, ce simple homme, s'il pouvait satisfaire, s'il était bon, s'il agissait bien, pour un autre exemple, quelqu'un va faire pénitence pour son péché, il fait pénitence pour son péché. Il ne fait pas pénitence pour tous les péchés de tout le genre humain. Ce n'est pas dans sa puissance, dans sa possibilité. Et Dieu ne devait pas satisfaire, lui non plus. Dieu n'avait pas à satisfaire, c'est l'homme qui devait satisfaire. Il fallait donc que Jésus-Christ fût à la fois Dieu et homme. Homme pour satisfaire, ce que Dieu ne devait pas faire, mais Dieu pour satisfaire pour tout le genre humain, et non pas pour un seul homme. C'est ce qu'affirme saint Léon le Grand. La puissance assume la faiblesse, et la majesté la bassesse. Ainsi, ce qui convenait à notre guérison, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, pouvait mourir d'une part et ressusciter de l'autre. S'il n'avait pas été vrai Dieu, il n'aurait pas apporté le remède. S'il n'avait pas été vrai homme, il n'aurait pas offert un modèle. Oui. Donc en Dieu, on trouve, en Jésus-Christ, nous trouvons le remède et le modèle à suivre. Et un modèle comme nous, imitable, puisqu'il s'est fait réellement homme. Il a réellement enseigné et vécu ce qu'il enseignait. Et parce qu'il ne commande pas l'impossible, eh bien, nous avons un exemple visible que nous pouvons suivre. Voilà donc cette très belle question, ce très bel article de saint Thomas d'Aquin pour expliquer combien Jésus-Christ, voyez, est la réponse au manque de bien chez l'homme et au mal, au péché entré dans le monde depuis nos premiers parents. Répondons en quelques minutes aux objections. La première, vous savez, disait un homme aurait pu un péché. Enfin, Dieu aurait pu permettre à un homme, par un acte bon, d'équiparer et de compenser l'acte mauvais du péché. Réponse de Saint-Thomas d'Aquin, elle est lapidaire. Elle n'est pas lapidaire. On peut dire qu'une satisfaction est suffisante de deux manières, de deux façons. D'abord parfaitement, parce qu'elle compense par une équivalence absolue la faute commise. En ce sens, la satisfaction offerte par un simple homme ne pouvait pas être suffisante parce que toute la nature humaine était désorganisée par le péché. Toute la nature humaine était désorganisée par le péché. C'était le naufrage complet, le déluge complet. Et que le bien d'une personne, ou même de plusieurs, ne pouvait compenser d'une façon équivalente le désastre de toute une nature. De toute une nature. En outre, le péché commis contre Dieu reçoit une certaine infinité en raison de l'infinie majesté divine qui est lésée. Car l'offense est d'autant plus grave que l'offensé est de plus haut rang. Ainsi fallait-il, pour une satisfaction adéquate, donc équivalente, que l'acte de celle-ci, la satisfaction, ait une efficacité infinie comme venant de l'homme-Dieu. Dieu a bien voulu apporter une satisfaction égale au désastre qui atteignait toute la nature humaine. Tous coupables nous étions, et Dieu va tout porter sur lui pour répondre au mal, pour répondre au péché. Mais on peut parler aussi d'une satisfaction qui soit suffisante, mais imparfaitement, parce qu'elle est acceptée, malgré sa faiblesse, par celui qui veut bien s'en contenter. En ce sens, la satisfaction offerte par un simple homme est suffisante. Et parce que l'imparfait suppose toujours une réalité parfaite qui le fonde, il s'ensuit que la satisfaction de tout homme ordinaire tient son efficacité de la satisfaction du Christ. Donc ça reste par imitation d'un modèle plus parfait qui est Jésus-Christ. Enfin, l'objection musulmane, je l'ai baptisée ainsi parce que c'est tout à fait, c'est contraire à la dignité de l'homme, à la dignité de Dieu, à la finie respect que nous devons pour Dieu. Saint Thomas d'Aquin répond ainsi. En assumant la chair, Dieu n'a pas diminué sa majesté, ni par conséquent le motif que nous avons de le révérer. Il reste Dieu. Il ne devient pas, je vous disais tout à l'heure, un copain, entre guillemets. Celui-ci s'accroît, le motif de le révérer, s'accroît dans la mesure où s'accroît la connaissance de Dieu. Or, du fait qu'il a voulu se rendre proche de nous en se faisant homme, il nous a attirés davantage à le connaître. Vous voyez. Il n'est pas resté loin, loin dans les nuées. Il est venu tout proche, tout proche. Il s'est laissé toucher par saint Thomas. Et il va même plus que se laisser toucher, il se laisse manger dans l'Eucharistie. Donc vous voyez, on trouve ici, c'est une des premières questions du traité de Jésus-Christ chez saint Thomas d'Aquin qui fait des articles, hein, des pages et des pages. Et déjà, on a là tout en germe, bien sûr, et qu'il va falloir méditer tout au long de cette semaine et d'une vie qui, d'ailleurs, n'y suffira pas. Donc voilà donc cette première approche, cette approche rapide, j'en conviens, de Jésus-Christ, qui se montre, encore une fois, comme la réponse de Dieu face au mal, l'amour miséricordieux qui se dévoile, et puis comme un modèle visible, tout ce qu'on a dit, et qui se montre également... C'est dit un petit peu, mais un peu rapidement, comme médiateur, comme pont entre le ciel et la terre, entre lien entre les hommes et Dieu. Alors nous rendons à la chapelle pour les vêpres. Nous pourrons comme ça louer Dieu, notre Dieu qui habite au tabernacle.